Donc, on parlait de la limite avec le Vietnam. Vous avez parlé de la Chine aussi,
oui.
La Thaïlande, puisque votre ville de naissance, Battamba, est juste à la frontière, pratiquement à la frontière thaïlandaise.
Mm-hmm.
Il y a un autre pays encore qui est en
frontière. Il y a aussi le Laos.
Le Laos, oui. Au nord.
Oui, il y a le Laos et ensuite le pays s'ouvre quand même sur le golfe de Siam, le golfe de Thaïlande, qui fait partie de la mer de Chine méridionale. Pour vous dire que, bon, au point de vue climat, c'est un pays de climat chaud, climat des moussons.
Et aussi un pays aussi certainement où le commerce est important, puisque quand même ouvert largement, effectivement, vous le disiez, sur la mer.
Oui, le Cambodge était exportateur du riz et du bois, et aussi du caoutchouc, l'évéaculture.
Alors du bois, justement, votre papa travaillait, et il était exploitant forestier. On va essayer de maintenant de comprendre un peu mieux votre vie de famille, votre éducation, pour comprendre aussi qui vous êtes, afin de mieux vous suivre. Votre papa était exploitant forestier, Claire ?
Oui, il était exploitant forestier, et puis il était aussi le premier exportateur du bois de luxe du Cambodge. Il avait une menuiserie et puis une scierie.
Donc un notable ?
Un notable de Battamonville.
Voilà. D'une famille de plusieurs enfants ?
Oui, nous sommes cinq.
Cinq enfants. Alors, je parle d'une famille de notables, mais de toute évidence, oui, puisque il y avait un tonton, je crois, qui était maire de la ville de Battamonville.
Oui, maire de la ville, et mon frère aîné était député de Cambodge.
Donc quand même d'un certain niveau, en tout cas, au Cambodge.
Oui, d'un certain niveau, parce que mes deux frères ont fait leurs études en France.
Donc voilà cette petite famille dans le cadre donc de cette vie au Cambodge. Le Cambodge est bouddhiste à 99%.
Oui.
Mais un bouddhisme particulier, on pourrait peut-être le définir. Vous précisez d'ailleurs dans votre livre. Hein.
Oui, c'est-à-dire que le bouddhisme vécu au Cambodge, c'est un bouddhisme, ce qu'on appelle péjorativement, de petit véhicule. Mais en fait, c'est le bouddhisme, je préfère dire Theravada, ça veut dire des anciens. C'est le bouddhisme qui se trouve le plus près, si vous voulez, de l'enseignement de Bouddha Sakyamuni, qui est né au 6e siècle avant Jésus-Christ.
Un bouddhisme assez sobre ?
Oui, très austère.
Sans trop de rituels ?
Surtout, il est caractérisé par l'absence de prières. Il n'y a pas de prière de demande, parce que le premier enseignement du Bouddha, c'est que l'homme n'a pas d'autre maître que lui-même.
D'accord, en opposition donc avec le grand véhicule qui est vécu par exemple peut-être en Inde aussi, ou au Tibet,
oui,
c'est le grand véhicule.
Oui, le bouddhisme du Tibet, c'est le bouddhisme du grand véhicule, ce qu'on appelle le Mahayana. C'est un bouddhisme qui est né au premier siècle de notre ère, vous voyez, c'est donc 6 siècles après Bouddha. Et nous autres, en Asie, on regardait souvent le bouddhisme du Tibet comme un bouddhisme très superstitieux.
Très superstitieux ?
Oui.
Pour quelle raison exactement ?
Parce qu'il y avait trop de... Oui, il y a trop de rituels, il y a trop de dieux, de déesses, bon... Enfin.
Mais je crois que dans le petit véhicule, il y a aussi une démarche qui est différente. Il y a une démarche vers l'autre qui est différente par rapport au grand véhicule, où on doit aussi amener une vérité ou une illumination vers l'autre, si je ne me trompe. Chez l'autre aussi.
Il y a la compassion, vous voulez parler.
La compassion, oui.
Il y a aussi une compassion communautaire. Mais dans le petit véhicule, on ne peut pas faire grand-chose pour l'autre. Il faut que... On essaie de lui montrer le chemin, mais l'autre doit trouver le chemin par lui-même.
Alors, votre papa était ce qu'on peut appeler un homme très fervent, un homme très
engagé.
Oui,
c'était un bouddhiste, si vous voulez, militant même.
Militant. Il était d'ailleurs responsable d'un comité bouddhiste à
Battamba, oui. Donc, il était chargé de s'occuper de toute la vie matérielle des moines.
Alors ça veut dire quoi là, bon, on est en France. Bon, le bouddhisme en plus en France, il est peut-être assez éloigné de toute évidence de ce que l'on peut vivre au quotidien dans votre pays. Ça veut dire quoi au quotidien? Imaginons une journée ou un moment où il y a comme ça des réflexions ou l'enseignement bouddhiste qui vous marque dans votre vie?
Il faudrait dire que le bouddhisme est très différent du christianisme, si vous voulez. Dans le bouddhisme, on n'enseigne pas d'emblée les paroles du Bouddha à un enfant, mais on le vit. C'est-à-dire, dans ma famille, qui est une famille très pratiquante, on essaie d'abord d'amener l'enfant à vivre tout le rituel. Aller à la pagode, offrir chaque matin, on va offrir du riz aux bonges qui passent. C'est tous des gestes, des rituels qu'il fallait les vivre tout d'abord. Et au début, il n'y a pas de catéchisme, si vous voulez, il n'y a pas d'explication intellectuelle. Je suis imprégnée dans la façon de vivre des rites qui font partie de la vie, spirituelle de mes parents. Si je veux dire.
D'accord, donc le spirituel, en fait, c'est le quotidien.
C'est le quotidien, oui.
Il n'y a pas de séparation.
Non, il n'y a pas de...
Comme d'ailleurs, même dans nos pays aussi, hein. Entre d'un moment donné, on est dans une église, alors là, il faut que tout change, et puis quand on est à l'extérieur, on fait ce qu'on veut.
Non, il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, cette séparation entre le spirituel et le corporel, ça m'a plus ou moins déroutée dans votre civilisation occidentale.
Qui est d'ailleurs issue d'une culture assez grecque quand même. Il faut
voilà.
Alors, justement, vous parliez d'offrandes, là, donc, toute petite déjà, vous alliez faire des offrandes dans les pagodes?
Oui, oui, mais dès ma naissance, au troisième mois, papa m'avait confié un bonge bouddhiste qui devait être mon parrain, qui devait m'accompagner pendant toute ma vie. C'est dire que quand j'ai envie d'aller lui parler, j'allais le voir.
C'était votre ami aussi et confident?
C'est mon ami et confident, mais... En fait, il ne s'imposait pas. Il ne venait jamais me voir. C'est à moi d'aller le voir si j'ai envie de le voir. Et bon, des fois, si je posais des questions un peu trop difficiles à papa, il envoyait voir mon parrain.
C'était assez facile. Et il répondait, le parrain?
Ah, des fois, il répond pas. Il a dit, il y a beaucoup de vérités qu'on ne peut apprendre que par le silence ou parce que j'ai pas encore fait assez de chemin pour comprendre les choses. Il faut patienter.
Cela, c'est une belle école tout de même. Et un beau chemin, quoi qu'il en soit, ouais. Quelle que soit d'ailleurs la démarche spirituelle. D'autres petits exemples comme ça, donc, qui marquent votre jeunesse, parce que vous avez été bien marqué par le bouddhisme, qu'est-ce qui marque d'autres qui vous ont imprégné?
Ce qui me marque beaucoup, et je croyais qu'il était vraiment le début de mon chemin spirituel, c'était la nature et le silence. Papa m'avait toujours appris, toute petite, à admirer la nature, à respecter l'ordre de la nature et à ne pas dire des grands mots devant la beauté d'un lever de soleil, par exemple, de rester silencieux. Ça marque un petit enfant qui faisait plein de bruit.
De ne pas dire de grands mots devant la beauté de la nature, c'est vrai qu'il serait limité. Hein. C'est vrai que bien souvent, c'est limité, nos mots, par rapport à ce que l'on peut regarder. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on est bouddhiste comme cela? Parce que vous restez longtemps dans cette philosophie, dans cette démarche. Quand on regarde la nature, parce que c'est une vision que l'on a. Hein, on a un priori en fonction de ce que l'on a appris. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le tout? Qu'est-ce qu'on observe? On regarde l'illusion? Ça m'intéresse parce qu'il y a un regard qui est différent.
Oui, c'est un regard très différent. C'est-à-dire que quand on regarde la nature, dans le regard bouddhiste, on essaie de se fondre dans cette nature. On essaie d'avoir l'humilité en disant qu'on n'est pas grand-chose, ou on n'est qu'un élément insignifiant de cette grande nature.
Du grand tout.
Oui, de ce grand tout.
Et aujourd'hui, vous voyez la nature comment? Quand vous regardez la nature avec le même regard?
Je regarde avec le même regard, avec toujours le même émerveillement pendant la beauté et la nature. Mais il y a un autre chemin qui mène vers son créateur maintenant.
Donc vous mettez derrière, non pas l'entrée dans un grand tout, mais un créateur.
Oui, je ne mets plus la vacuité ou le tout impersonnel. Maintenant, il y a un tout autre qui n'est pas moi-même.
Vacuité, vous pourriez peut-être donner une définition. Là, je parle aussi au professeur de philosophie, j'en profite pour faire une petite...
Vous savez, la vacuité, si vous demandez la définition de ce mot à des grands maîtres bouddhistes, ils vont vous dire que venez la vivre, parce qu'on ne peut pas définir intellectuellement. Étant donné que la vacuité, c'est tout simplement la non-dualité. Dans la vacuité, il n'y aura plus de sujet ni d'objet. C'est quelque chose à vivre et non à démontrer intellectuellement. C'est pas assez clair peut-être, mais c'est très difficile.
Peut-être à vivre aussi d'ailleurs. C'est en fait une impersonnalisation d'une certaine manière. On ne s'implique plus en tant que sujet et on rentre dans la grande roue de la vie parce que c'est aussi...
Oui, on ne s'implique plus en tant que sujet, c'est-à-dire qu'on essaie de faire partie de ce tout, de ce qu'on appelle l'ultime, quelque chose qui nous englobe, mais on ne crée plus des périmètres. C'est-à-dire quand vous dites « je », le concept de « je » de « moi », ça veut dire que vous posez des périmètres autour de vous. Voilà, moi, je suis. Là, c'est très mauvais.
Je limite.
Alors, il faut éclater ces limites et rentrer dans l'ultime qui est la non-dualité. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de sujet pensant.